explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Un voyage, ça peut aider à mettre à distance certains obstacles pour mieux les affronter au retour. Un voyage, ça peut être l'occasion de tisser de nouveaux liens. Ça peut créer des souvenirs dont on fera une force plus tard. Un voyage, ça peut aider à grandir. Celui qu'a entrepris Domiti Koé en Mongolie avec l'un de ses trois fils, Paul, a eu toutes ses vertus et d'autres encore. Paul est autiste. Domiti Koé a connu le parcours du combattant de tous les parents dans sa situation. Après avoir livré de nombreuses batailles pour le diagnostic, la scolarisation ou encore la mise en œuvre de thérapies adaptées, elle a eu envie, le temps d'un été, de changer d'air et d'emmener Paul à travers la steppe mongole, marcher dans le désert de Gobi et faire du cheval au bord d'un grand lac. Elle raconte ce voyage et son odyssée personnelle dans un livre très émouvant publié chez Fayard intitulé « Paul en Mongolie » et sous-titré « L'autisme est un voyage que je n'avais pas prévu ». Nous avions reçu Domiti Koé en juillet 2018 à l'occasion de la parution de son livre. Une rencontre qui nous avait marqué. Cet après-midi, nous vous proposons une nouvelle diffusion de cet entretien. Et en fin d'émission, nous repartirons pour un savoureux voyage au Brésil avec deux explorateurs des cuisines du monde, Marine Mandrila et Louis Martin. Voilà pour le programme du jour. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
And count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Do you want to do that? Yes, please, or no, thank you.
Yes, please.
Okay, let's do it. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. In my daydream. This trip to Mongolia would bring.
Mon rêve serait que ce voyage en Mongolie
him by himself riding.
Lui permette de chevaucher par lui-même.
Him not having to sit there in the saddle with me.
Pas de devoir s'asseoir derrière moi.
Riding by himself.
Mais bien de faire du cheval seul.
Every parent
chaque parent ayant une passion
passionate interest wants
souhaiterait
to
pouvoir la partager avec son enfant.
With their child.
Mais pour Rohan,
but it's more
c'est plus que cela.
If Rohan can ride,
s'il peut faire du cheval seul,
then he's free. Then he's got freedom.
Cela veut dire qu'il est libre.
But that's something that could come of this trip, then.
Et c'est quelque chose
that
qui peut se produire pendant ce voyage.
Would be everything to me.
Et cela compterait beaucoup pour moi.
Nine. Stop.
Extrait du documentaire The Horse Boy, l'enfant cheval, film dans lequel Rupert Isaacson raconte le pari qu'il fait d'emmener son fils, autiste, Rohan, chevaucher dans les steppes de Mongolie. C'est sur un cheval que Rohan a dit ses premiers mots et Rupert Isaacson fera de cette expérience un livre autobiographique, l'enfant cheval, et puis ce film documentaire dont on vient d'entendre un court extrait. Vous découvrez, Domiti Koé, ce récit de Rupert Isaacson en 2010 et il trouve un écho tout particulier chez vous, ce documentaire.
Oui, parce que j'étais encore à l'époque en recherche de diagnostic pour les difficultés de mon fils, Paul. Et puis, ça associe à la fois un pays que j'adore et que j'avais découvert quand j'étais jeune fille. Donc, ces deux aventures qu'il arrivait à mêler, et puis cette image magnifique d'emmener son enfant pour trouver la liberté dans ce pays-là m'avait énormément touchée. Ouais.
Alors, en 2010, Paul a 4 ans. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce petit garçon. C'est le deuxième d'une fratrie aujourd'hui qui compte 3 enfants. Vous avez
3 garçons.
Ouais. Et donc, Paul, c'est le deuxième. Il a 4 ans en 2010. Évidemment, vous l'aimez terriblement. Mm. Et aussi, vous vous inquiétez pour lui. Vous vous posez des questions. Je lis quelques mots de votre livre. En 2006, en septembre, 4 années après Gabriel, nous accueillons notre deuxième fils, Paul. Nouvelle rencontre avec ce petit être dont le regard et les sourires me remplissent le cœur. Un bébé adorable et qui pourtant hurle longtemps, le soir avant de s'endormir. Le temps passe. À 18 mois, Paul marche à peine et ne dit pas un mot. J'en parle avec mon généraliste qui me rassure. C'est un garçon, il prend son temps. À la crèche, les puéricultrices s'interrogent. Entend-il bien? Il ne réagit pas à son prénom, interagit peu avec les autres enfants. Je fais vérifier son audition, tout est normal. Il me fait rire avec son attitude dans sa chaise haute, le visage sérieux et le regard fixé vers le lointain. Je l'appelle Monsieur le Président. Il ne supporte pas le bruit de l'aspirateur. Il adore les câlins. Il reste le nez collé à la fenêtre pour observer la rue. Il ne parvient pas à faire le puzzle que fait la voisine du même âge.
Il fait des lignes de ses petites voitures qui traversent tout l'appartement. Il éclate de rire sans que je ne sache pourquoi. Il ne parle quasiment pas. Quelques sons que seuls nous comprenons. Je l'aime. Il y a toutes ces interrogations et il y a tout l'amour d'une mère. Il a fallu beaucoup de temps pour que vous réalisiez vraiment, que vous mettiez un mot sur ce dont était atteint votre fils.
Oui, c'est ce que j'évoque dans le livre, c'est l'image que j'avais, c'est cette lumière rouge qui s'est allumée assez vite quand même par rapport aux difficultés de Paul qui effectivement a développé assez tard le langage. Mais je trouvais personne pour me donner des réponses. J'ai consulté plein de médecins différents et personne n'arrivait à me dire ce qu'il avait, quel était le problème. Et puis très rapidement, le fait d'être dans la société avec les difficultés qu'il avait, j'arrivais pas. Enfin voilà, sa place à l'école était difficile. Et puis c'est uniquement à l'âge de 7 ans que j'ai pu enfin mettre un mot sur ce parcours et que j'ai pu entamer d'autres démarches pour l'aider.
Alors, c'est donc à 7 ans que clairement vous mettez un mot. Mmh. Il est atteint d'un trouble autistique. Mmh. Il est autiste. Vous refusez le terme de maladie. Pour vous, l'autisme n'est pas une maladie. C'est quoi pour vous l'autisme?
J'aime pas le terme maladie parce que on est autiste et on reste autiste toute sa vie, ce qui n'est pas une fatalité puisque on peut progresser, apprendre en étant autiste. Mais c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est un problème au niveau cérébral et pas une pathologie psychiatrique comme on a pu l'entendre longtemps dans notre pays.
Ouais. Et quand vous on sent aussi, mais ça c'est vraiment le parcours du combattant de tous les parents, comme vous l'expliquez dans votre livre, il y a un peu une double peine, c'est-à-dire la difficulté d'avoir un enfant, vous dites des mots atypiques, différents, avec ses particularités, donc qui a plus de mal à s'insérer dans la société. En plus, le regard des autres, culpabilisant, on vous dit des choses très dures, une psychologue ou une psychiatre qui vous dit le lien avec la mère ne s'est pas fait, voilà. Et on est dans le jugement, et on est dans le reproche, comme si vous aviez besoin de ça à ce moment-là.
Oui, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile qu'on ne trouve pas comment l'aider et qu'on vous dit en plus que c'est de votre faute. Donc c'est pas évident à vivre et c'est une particularité française. Il faudrait vraiment qu'on en sorte de cette approche de l'autisme en France.
Vous, c'est pas une douleur, c'est un soulagement. Quand on vous, quand vraiment on met un mot sur ce dont souffre ou ce dont est atteint votre enfant, il est autiste, il est atteint d'un trouble du spectre autistique. Pour vous, c'est un soulagement. Pourquoi ?
Mais oui, c'est un soulagement parce que pendant longtemps, aucune réponse et des progrès qui n'étaient pas là, une place difficile à obtenir dans la société, et que le jour où on peut mettre enfin un mot sur le combat à mener, on peut chercher de nouvelles solutions et se mettre en action, parce que tant qu'on subit. C'est très difficile et puis oui, j'avais le sentiment de rien faire pour l'aider.
Ouais. Alors l'été dernier, une très bonne amie à vous, Sarane, que vous connaissez de longue date, vous vous êtes connue sur les bancs de la fac. Oui. Elle est mongole et vous avez noué avec elle des liens d'amitié très forts. Vous êtes partie alors que vous aviez un peu plus de 20 ans en Mongolie avec elle, et là elle vous dit: et si on repartait en Mongolie? Est-ce que vous êtes tout de suite partante pour cette idée?
Oui, j'étais arrivée au terme d'un cycle, vraiment. J'avais, ça a été 10 années de bataille, et par moments, je me disais que je passais à côté de la vie avec Paul. Alors, j'ai pas le choix parce que il faut que je l'aide à avancer, à progresser. Mais je me disais, il y a un moment, où il faut qu'on vive une aventure où on se libère du poids de l'autisme, enfin, et qu'on puisse vivre pleinement un voyage.
Ouais. Ouais. Parce que c'est avec Paul que vous allez entreprendre ce voyage. Vous vous êtes tout de suite dit, ça va pas poser de problème, en tout cas pas de problème qui ne soit pas surmontable. On va pouvoir partir chevaucher en Mongolie, traverser le désert de Gobi, qui est quand même l'un des plus terribles du monde au niveau des températures et de ce qui se trouve. C'est aussi un des plus beaux.
Oui, j'ai fait confiance à mon fils. Je le trouve extrêmement courageux. C'est ça qui est incroyable avec ces enfants-là, c'est que ils ont des difficultés dès le début de la vie. Et moi, je trouve qu'il s'accroche, qu'il a une ténacité incroyable. Et je me suis dit, ce défi-là, on va le relever, tous les deux. On va y arriver.
Alors, on va le relever, on va s'y préparer aussi, hein, parce que si on veut pas faire n'importe quoi, évidemment, ça demande un peu de préparation. Étude de la carte, déjà, lui faire comprendre ce que va être ce voyage, comment vous vous y prenez et comment ça se passe.
Oui, alors, les apprentissages pour Paul, ça passe beaucoup par la manipulation et par le concret. Donc forcément, le fait de partir à l'autre bout du monde, c'était pas très concret. Donc essayer de manipuler un globe, essayer de repérer avec les doigts sur une carte notre trajet en avion.
Il a un peu de mal à comprendre, vous dites, le principe du décalage horaire. Alors vous prenez une lampe de poche sur le globe, il a fini par le comprendre, le décalage horaire?
Pas vraiment, pas tout à fait. Il l'a bien supporté, mais il comprenait pas bien que ses frères dorment quand lui était réveillé. Ils ont pas tellement accès à l'abstraction, les autistes. Ouais.
Il est déroutant parce qu'il vous pose des questions très concrètes. Quand vous lui parlez du vol, il vous demande « alors on va dormir dans l'avion ?» et « est-ce qu'il y aura des yaourts au dessert ?» C'est très pragmatique. En fait, il veut pouvoir se projeter dans le concret de ce que ça va être ce voyage.
Oui, c'est un autre signe autistique. Besoin de ritualiser, besoin d'avoir des repères très fixes. Donc c'est vrai que le défi, il était là aussi. Forcément, je le mettais en difficulté. Et il est toujours très terre-à-terre. Il me ramène toujours à des choses bien, bien concrètes.
Toujours très terre-à-terre. Et vous avez eu aussi envie de tester sa réaction au vol, au décollage, à des sensations qu'il n'avait jamais vécues. Alors il a une vraie passion pour les transports, pour tout ce qui roule, mais il n'avait pas encore pris l'avion. Donc vous prenez un petit avion dans la Somme, vous regardez comment ça se passe, et là ça se passe bien.
Oui.
Il vous dit c'est cool maman.
Ah oui, il m'a dit c'est trop cool maman. Ouais. Et là je me suis dit c'est bon, c'est gagné.
Ouais.
S'il arrive à supporter ça, si physiquement ça le fait pas paniquer, on peut faire un trajet plus long, c'est possible.
Et puis avant de partir aussi, et ça aussi c'est assez touchant, il fait un exposé devant sa classe de CE2. Oui. Alors il va à l'école, une école tout à fait classique, normale, dans une classe normale. Il est accompagné d'un adulte qui le seconde un petit peu. Et comme il partait en Mongolie, il a fait un exposé devant sa classe sur son voyage.
Ouais.
Ça s'est très bien passé.
Oui, c'était déjà une première victoire. Le fait qu'il puisse prendre la parole devant un groupe, qu'il puisse s'approprier cette aventure qu'on allait vivre, c'était déjà un défi de remporter, quoi.
Ouais. Et puis le regard de ses camarades qui change tout d'un coup, il n'est plus le petit garçon un peu différent, il est le garçon qui va faire un voyage mais très loin. Tous ses camarades sont assez abasourdis de voir, parce qu'il leur explique jusqu'où il va aller. Donc le grand départ arrive. Vous êtes parti, c'était l'été dernier que vous êtes parti.
L'été 2017.
Donc nous étions en train de faire notre saison du bivouac 2017 pendant que vous viviez la grande aventure en Mongolie. Vous aviez un peu peur de tous les passages, les contrôles à la douane, à l'aéroport. Oui. Tout ça, il supporte, il vous surprend en bien, agréablement, votre fils.
Oui, tout à fait. J'étais très étonnée parce que généralement, les files d'attente, c'est pas quelque chose qu'il supporte très bien. Généralement, beaucoup d'agitation. Là, tout était nouveau, tout était inconnu. Mais c'est ce que je disais, c'est que j'étais son point d'ancrage, c'est-à-dire que j'étais son référent et qu'il me faisait confiance et que il a réussi à surmonter tout ça. Il savait qu'il y avait un objectif qu'on devait. Voilà, on progressait par petits objectifs.
Au début, il a un peu de mal à s'endormir dans cet avion parce que tout ça est quand même un peu perturbant. Il finit par s'endormir dans l'avion qui arrive à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Donc vous ne le réveillez pas parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, mais vous, par le hublot, vous voyez ce paysage, ces chaînes de montagnes, de l'Altaï, les grands lacs de Sibérie, tout ce paysage, ces paysages qui vous ont fait rêver. Vous regrettez de ne pas pouvoir partager ça avec lui, mais à ce moment-là, vous vous dites, ça y est, l'aventure va vraiment commencer, quelque chose de fort. Vous êtes dans quel état d'esprit? Il y a un peu d'anxiété au moment d'arriver?
Non, il y a un soulagement d'avoir passé le voyage, ça c'est vrai. Je savais pas du tout à quoi m'attendre par rapport à un très long vol. Donc il y a le soulagement de se dire, on va bientôt atterrir, c'est déjà une première étape de passer. Et puis, il y avait une forme de nostalgie et d'excitation à la fois, puisque je retrouvais les paysages que j'avais quittés 20 ans plus tôt. J'étais très émue de retrouver la terre mongole.
Votre voyage en Mongolie avec Paul commence à peine. Vous allez nous le raconter dans un instant. Domitille Coé est avec nous, le temps d'un bivouac, sur France Inter. C'était Angaï, un groupe mongol qui chantait Flowers et qui passe dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Il est beau le désert de Gobi avec ses dunes de sable, beau et dur. Moins 40 l'hiver, plus 40 l'été, la traversée vaut le coup. Plaisir des yeux et travail de mémoire.
La question que je me pose, c'est comment il pouvait faire jadis. C'est dur, le soleil, le sable, quelle endurance il fallait. Et ça finit jamais.
Extrait du documentaire Les routes de la soie, route qui passe par le désert de Gobi où nous allons nous rendre avec Domiti Koé, auteur de Paul en Mongolie chez Fayard. Elle nous raconte le voyage qu'elle a fait l'été dernier avec Paul, son fils autiste. Le désert de Gobi, c'est la première grande étape de votre périple. Juste avant d'y arriver, vous avez retrouvé la mère de Saran, votre amie avec qui vous étiez déjà allé en Mongolie, qui elle était déjà venue, la mère de Saran était déjà venue en France.
En France, oui.
Elle connaissait votre fils Paul, elle le trouve changé, elle le trouve beau, elle le trouve resplendissant.
Grandi,
ouais. Ça vous fait plaisir?
Oui, bien sûr, ça me fait plaisir.
Ça vous fait plaisir qu'on dise du bien de votre fils. Et puis, il y a cette scène aussi émouvante où elle vous prend la tête entre les mains. Et puis, elle voit sur votre visage, c'est ce qu'elle vous dit en tout cas, qu'elle voit un peu les épreuves que vous avez dû endurer. Et elle vous dit, il va falloir que vous vous requinquiez, que vous vous ressourciez ici.
Oui, se ressourcer, tout à fait.
C'est ce que vous étiez venu faire.
Et c'est ce que je suis venu faire. Et avec lui, il y a plein de raisons à ce voyage. Hein. Mais c'était aussi, le besoin de retrouver une énergie, une force intérieure pour continuer le combat. Parce que la route est longue.
Ouais. Alors pour vous décidez quand même d'affronter les éléments, hein, parce qu'on l'entendait d'ailleurs, vous acquiesciez pendant le son. Mmh. On entendait la description de ce désert de Gobi, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, c'est le lieu de tous les superlatifs. Mmh. Hein. Décrivez-nous un peu cet endroit.
Le plus grand désert du monde, le plus froid, le plus
la plus faible densité d'habitants.
La plus faible densité d'habitants. C'est un lieu qui a une aura incroyable, on peut pas rester insensible, et c'est en même temps très très dur, très aride, enfin forcément c'est un désert, mais avec aussi ces paysages à perte de vue où plus aucune frontière, et avec les éléments aussi qui sont très présents, le vent qui souffle en permanence. Oui, c'est un lieu qui est vraiment magique. Ouais.
Et en quoi vous pensez que ce lieu vous fera du bien à vous, à votre fils, à votre relation, à tous les deux?
C'était... pour les Mongols, c'est aussi un haut lieu de spiritualité, le désert de Gobi. Et il y a d'ailleurs un lieu de pèlerinage où ils vont, c'est ce qu'ils appellent le centre d'énergie spirituelle, où ils vont pour se ressourcer. Et en fait, c'est mon amie Sarah Anne, qui tenait beaucoup à ce qu'on démarre par ce lieu-là, pour essayer de faire le vide et d'entamer à la fois un voyage intérieur avant d'entamer notre périple. Ouais. Le problème de la spiritualité pour Paul, c'est que ça lui correspond pas du tout, parce qu'il prend jamais le temps de se poser. Ouais. Et que c'est un lieu où, entre guillemets, comme il y a rien, ouais, il faut arriver à se poser, ouais, et à se laisser porter un peu par les éléments. Mmh. Donc c'était assez rude comme transition. Ouais,
c'était une épreuve dans tous les sens du terme pour Paul. Alors les bienfaits du désert en général ont été racontés par de nombreux écrivains. Les livres et leurs auteurs ne sont jamais très loin, dans votre cœur, dans votre sac. Vous êtes professeur de lettres dans la Somme. Et dans ce désert, il y a des textes d'Antoine de Saint-Exupéry qui vous reviennent en tête.
Le désert est beau, ajouta-t-il, et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même ne la chercher. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou du désert, ce qui fait leur beauté est invisible.
Un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Bernard Giraudot. Les beautés invisibles du désert. Il en parle beaucoup, Antoine de Saint-Exupéry, dans ce texte et ailleurs, du silence, de la solitude, des sollicitations invisibles du désert. Ce sont ces sollicitations invisibles que vous étiez parti chercher, Domitille Coé.
Oui, c'est sortir de... Je sais pas comment expliquer. C'est retrouver une paix intérieure parce que tellement de batailles, j'avais l'impression d'être empêchée par plein de choses et que j'avais envie de retrouver une espèce de simplicité absolue et dans mes relations avec mon fils, parce qu'il y a pas de sollicitation extérieure et que se retrouver dans la nudité, enfin quelque chose de simple pour se ressourcer, oui.
Et Paul, comment il vit cette traversée du désert de Gobi avec vous ?
Mais Paul s'attache beaucoup aux détails, donc c'était un peu frustrant pour moi au départ, parce que j'ai l'impression qu'il saisissait pas l'immensité et que voilà, il voyait le chameau qui traversait la route, il voyait le papier qui vole. Alors après, on a vu le train aussi qui passait, qui va jusqu'en Chine. Mmh. Et j'avais le sentiment que le premier jour, voilà, il saisissait pas l'immensité de la nature. Mmh. Et puis il y a eu ce moment où il a regardé là ce coucher de soleil sur une dune face au désert. Et où j'ai eu le sentiment que là, il se laissait totalement aller à cette expérience sensorielle, le fait de se laisser caresser par le vent. En plus, ils ont une sensorialité différente, les enfants autistes. Donc, j'ai eu le sentiment que là, c'était agréable pour lui, qu'il y avait quelque chose où il se laissait absorber par le lieu, par l'énergie du lieu. Donc, c'était assez beau. Après, il l'exprime. Voilà, c'est plus corporel. Il l'exprime pas verbalement, donc c'est mon interprétation aussi.
Ouais, le coucher du soleil. Vraiment, le petit prince n'est jamais très loin dans ce désert. Après le désert, vous retournez à Oulan-Bator, donc la capitale de la Mongolie, pour assister au Naadam. Qu'est-ce que c'est le Naadam ?
Le Naadam, c'est la fête nationale mongole. C'est trois jours de festivités où on mange et on pratique les sports nationaux qui sont la course de chevaux, les courses de chevaux, les archers et la lutte.
Ouais. Alors là, évidemment, autant dans le désert, vous y étiez seul, c'était peu peuplé. Là, par contre, il y a du monde, il y a du bruit. Oui. Et alors, vous appréhendez... Évidemment, vous êtes contente de partager ça avec votre fils, mais vous appréhendez plus, parce que vous dites comment il va réagir à tout ça. Et puis, si s'il échappe à ma surveillance... au début, c'est un peu plus compliqué.
Oui, mais dès qu'on retrouve, entre guillemets, la civilisation, voilà, c'est... De toute façon, le désert, c'est pas appelé à durer. Donc, on retrouve les difficultés. On retrouve les difficultés de comportement. On peut retrouver l'appréhension, la peur de l'accident, de le perdre de vue, toutes ces choses-là. Ouais.
Et vous êtes invité à un grand spectacle, un spectacle de danse et de chant dans un théâtre, dans le théâtre national local. Vous y allez avec Paul. Là aussi, vous vous dites, est-ce qu'il va réussir à tenir son attention? Et là, ça se passe très bien.
Oui, ça se passe magnifiquement bien. Ouais. C'était très touchant aussi. Et les spectacles qu'on a vus évoquaient la culture nomade, la culture mongole. Il y avait beaucoup de liens avec les chevaux. Ouais. Et quelque chose qui le...
Il a une passion pour le cheval.
Qui le passionne. Et en même temps, je l'ai senti très sensible aux couleurs, aux danses, à toute la gestuelle, la musique. Et il était très heureux d'être là.
Donc ça se passe très bien pour lui. Ça répond aussi à une question que vous vous posiez sur l'accès à la culture, les musées, les spectacles. Vous vous rendez compte que oui, ça peut fonctionner. Il peut être réceptif à tout ça.
Oui, alors il faut toujours que ce soit un peu adapté. C'est-à-dire qu'il faut que... Il faut que je sente aussi son degré de patience, on va dire, dans les lieux qui sont très... codifié, où on peut pas faire, voilà, ce qui est normal, on peut pas faire ce qu'on veut, ça peut des fois tourner un peu les choses plus difficiles.
Mais dans ce cas présent, ce qui est beau, c'est qu'il vous surprend, en fait. Il vous épate, votre fils, de ce spectacle. Et lors de ce spectacle à Oulan-Bator, à titre personnel, vous vous attendiez avec impatience ça. Alors c'est un chant, je ne sais pas si je prononce bien, Rumi.
Oui, chant diphonique.
Voilà, polyphonique. Alors ça vous avait marqué quand vous étiez allé la première fois, une vingtaine d'années plus tôt, et vous retrouvez ces sons qui vous font du bien.
Oui, cette émotion, c'est étonnant, hein, voilà, c'est quelque chose qui a mis lieu notre culture et qui existe essentiellement là-bas. Moi, ça me donne la chair de poule à chaque fois. J'ai eu la chance de pouvoir croiser des artistes en plus que j'ai vu répéter devant moi, donc il y a un côté un peu surréel, quoi, de ces hommes qui arrivent à sortir ce double son. Ils appellent ça les chants divins, donc c'est aussi en lien avec le chamanisme, leur culture,
les esprits. C'est Bayar Bahatar Davasuren que l'on entend, que justement vous connaissez, que vous avez vu chanter.
Que j'ai logé chez moi.
Que vous avez même logé chez vous. Il vous a fait des chants quand il est venu.
Oui, tout à fait.
Oui, donc vous avez un vrai lien avec ce chant et particulièrement ce chanteur. Votre voyage avec Paul en Mongolie est loin d'être terminé, Domiti Koé. Vous allez mettre le cap sur un lac magnifique, on l'appelle la perle bleue de Mongolie, et permettre à Paul de renouer avec son grand amour, le cheval. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac.
I'm sorry for your loss of soul. The sun. I'm sorry for your loss of spirit that drained from the gas tank leak you couldn't plug, but only keep on topping up. And the sun
Sorry for your loss, c'était John Parrish et PJ Harvey sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant 6 mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 km, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver, des températures de moins 30 degrés Celsius, l'été, des ours sur les berges. Bref, le paradis. J'y ai emporté des livres, des cigares et de la vodka. Le reste, l'espace, le silence et la solitude étaient déjà là.
Un extrait du livre « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain Tesson, lu par Guillaume Gallienne. Domiti Coé, vous aviez ce livre dans votre sac lorsque vous arrivez avec votre fils Paul au bord du lac Kovsgol en Mongolie. Alors, ce lac, c'est le petit frère du Baïkal. Oui. D'ailleurs, si on regarde une carte, il est dans son prolongement, juste de l'autre côté de la frontière sibérienne. Oui. Il a l'air tout aussi superbe. On parle de la perle bleue de Mongolie. Décrivez-nous cet endroit qui est beaucoup moins connu que le lac Baïkal.
Moi j'ai beaucoup rêvé en lisant Sylvain Tesson. J'avais ce chaque phrase résonnait ces descriptions du Baïkal. Et c'est vrai que j'ai pas été du tout déçue en arrivant au Kovsgol. Il est en plus caché au milieu des forêts. On le découvre vraiment au détour d'une piste en arrivant et majestueux et immense à perte de vue. C'est toujours, de toute façon, la Mongolie, c'est cette sensation d'immensité permanente et avec des couleurs incroyables, un bleu profond, un bleu turquoise et ces grands arbres qui l'entourent et qui le cachent et il se révèle. Enfin voilà, c'est un lieu absolument magique.
Alors dans son livre, Sylvain Tesson écrit « Rien ne vaut la solitude. Pour être parfaitement heureux, il me manque quelqu'un à qui l'expliquer. » Cette idée que la solitude c'est bien, mais que c'est bien si on la partage avec d'autres, évidemment. Donc c'est tout le paradoxe. Vous êtes venu, vous, partager avec votre fils, Paul, autiste, un moment de solitude. C'est aussi ça que vous êtes venu?
Oui, mais c'est ce que je dis dans ce parcours-là. Enfin, la société dans laquelle on vit est tellement dure quand on a un enfant différent. Et à la fois, je bataille chaque jour pour qu'il ait sa place. Et par moments, j'ai envie de me retirer du monde parce que c'est difficile. Et que ce voyage, c'était une façon de vivre à l'écart aussi de notre société, de notre civilisation et de retrouver du coup des rapports simples, à pas avoir à gérer le regard des autres. Et puis cette proximité avec la nature qui fait un bien fou.
Et puis, il y a la grande histoire d'amour de Paul. C'est un passionné de cheval, en plus des transports, moyens de locomotion en tout vent, on l'a compris, mais aussi du cheval. Et ça tombe bien, en Mongolie, il y a beaucoup de chevaux.
C'est le pays du cheval.
C'est le pays du cheval.
Le pays des hommes centaures, oui.
Alors, du coup, il va pouvoir faire du cheval au bord de ce lac.
Oui, alors, la seule désillusion qu'on a eue à un moment donné, c'était que, en fait, les Mongols ne laissent pas chevaucher seuls les enfants étrangers. Ils le font avec les leurs, qui commencent à galoper dès l'âge de 3-4 ans. Mais les enfants étrangers, voilà, ils n'ont pas confiance dans leur capacité à maîtriser leurs chevaux qui sont semi-sauvages.
Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient autistes, c'est juste qu'ils soient étrangers, c'est pour ça qu'ils...
Oui, c'était juste ça. Donc la condition sine qua non, c'était que je monte derrière lui. Et ce qui fait qu'on a chevauché tous les deux, donc... Moi, je suis pas une grande cavalière, mais ça nous a aussi donné une proximité physique sur le dos de l'animal qui était très agréable.
Et quel effet ont les chevaux sur lui? Parce que là aussi, on sent que c'est une façon de l'apaiser. Hein.
Oui.
Vous le sentez d'ailleurs sur place, à partir du moment où il est au contact du cheval. Alors, les nomades, quand ils le voient enserré comme ça, la façon qu'il a de câliner le cheval, les surprennent un peu.
Mais lui, parce qu'ils ont, ils ont un rapport parfois un peu rude avec leurs animaux, les nomades mongols. Donc, mais Paul à ce côté très tactile qu'on imagine, enfin souvent on associe l'autisme au fait de rester tout le temps dans sa bulle et de ne pas pouvoir être touché. Lui, c'est pas le cas du tout, il est extrêmement tactile. Il est tactile avec ses copains, il est très tactile avec les animaux. Oui. Ce qui peut effectivement poser problème, problème de sécurité quand il croise un chien ou voilà, il a toujours envie de toucher. Mais c'est vrai que le contact avec, avec le cheval, lui qui a toujours un peu une agitation corporel, il est toujours un peu en mouvement et ça le canalise, ça l'apaise, ça le calme. On a l'impression que voilà, ça absorbe, on va dire, ses appréhensions, ses angoisses.
Alors je ne sais pas si c'est parce que les chevaux avaient à ce point absorbé toutes ces angoisses et ces appréhensions, mais alors vous le saviez, vous lui aviez dit, il y aura des imprévus. Lui déteste tout ce qui est imprévu, il aime bien que ce soit planifié, que ce soit cadré, savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Là, vous lui avez dit, c'est un voyage, forcément il y en aura des imprévus, et vous ne vous étiez pas trompé, au moins c'était prévisible, il y a eu des imprévus, et notamment à un moment vous vous perdez, vous êtes avec quelqu'un qui conduit la voiture, vous êtes au milieu de nulle part, le principe c'est que ce sont les personnes qu'on croise qui donnent, il n'y a pas de panneau, ce sont les personnes qu'on croise qui disent où est le chemin, au bout d'un moment, il n'y a plus de chemin, on ne sait plus où on est. Alors lui, il prend ça plutôt bien, votre Paul.
Oui, c'était incroyable, parce que moi, sur le moment, j'ai eu un tout petit moment de panique, quand même, en me disant, mais on est en panne au milieu de la...
Oui, parce qu'en plus, vous étiez en panne, perdu et en panne.
Oui, en panne au milieu de la steppe, on voyait rien, à perte de vue, et puis là, il faut espérer qu'on puisse réparer la panne, qu'on puisse repartir, on peut rester là des jours entiers. Mais finalement, lui, on était arrivé à un moment du voyage où finalement, ça n'avait plus tant d'importance. Il y avait une rivière à proximité. Il a été joué dans la rivière. Il y avait des hérons qui passaient, des troupeaux pas loin. Ouais. Et voilà, il s'est laissé porter par l'instant. Et il a posé la question juste une fois. Et après, il n'y est pas revenu. Je dis, on repartira quand on aura réparé. Voilà, mais bon, je ne sais pas quand. Il l'a très bien supporté. Et c'est pareil, j'étais extrêmement étonnée.
Épatée. Il y a plein de choses où il vous a épaté. Il a appris à traire les vaches. À côté des
En tout cas, il a essayé.
Voilà. Ah, vous dites dans le livre, tu ne sais peut-être pas bien tenir ton crayon, mais maintenant tu sais traire une vache en Mongolie et on sent toute la fierté d'une mère qui prend un peu sa revanche sur ce qu'on lui avait dit, ton fils ne saura pas faire ça, ne saura pas faire ça.
Il y a eu tellement de fatalisme par rapport à son trouble où on me disait, il saura pas lire, il saura pas, effectivement, prenez une tablette, de toute façon il sera pas capable de tenir un crayon. Aujourd'hui il sait faire tout ça très bien, donc... leur faire confiance, les accompagner, y croire et mettre en place les bonnes thérapies, et ça fonctionne.
Et votre fils, il a fait, on l'entend, on le comprend, lors de ce voyage, énormément de progrès. Il en était, il en est conscient qu'il a fait des progrès. Et à chaque fois qu'il fait des progrès, il vous dit cette phrase un peu à laquelle vous avez du mal à répondre. Quand je serai grand, je ne serai plus autiste. Il a l'impression que ça s'arrange, ça change en tout cas, et du coup qu'il va sortir. Et ça, vous êtes démunis face à cette question.
Oui, ça me serre toujours un peu le cœur, cette phrase, parce que je ne peux pas lui dire qu'il ne sera plus autiste. Et puis en même temps, ce serait... quand il manifeste ça, ce serait une façon de dire pour moi qu'il le vit mal ou qu'il a honte, donc ça serait une souffrance. Je ne sais pas exactement ce qu'il entend par là, ou qu'il a envie d'être comme tout le monde. Bon, ce qui est légitime pour un petit garçon, j'imagine, Ouais, je me dis, tu peux être fier de toi, avec ta singularité, et tu vas grandir. Mmh. Et,
vous écrivez, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je ne sais que quand tu seras grand, mon fils, tu seras toujours autiste.
Oui. Mais oui, cette particularité-là, il va la garder toute sa vie.
Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Et un an après, hein, c'est un an tout juste, qu'est-ce qui vous reste à vous et à lui? Est-ce qu'il vous en parle de temps en temps, de ce voyage, de ce que vous avez vécu ensemble en Mongolie?
Alors, c'est toujours un peu difficile pour lui de verbaliser longuement ou de façon très développée. En fait, c'est venu un peu plus tard. Tout le monde lui a sauté dessus un peu quand il est rentré en lui demandant de restituer ses souvenirs de voyage. Il n'en était pas capable. Et maintenant, aujourd'hui, il peut me demander d'écouter des musiques mongoles. Ça lui arrive de me dire, tu te souviens, on a vu tel animal. Voilà, c'est des choses qui reviennent un petit peu après coup. Où il a un peu digéré tout ça, mais et puis il est très fier, voilà, il est très fier de ce qu'il a accompli. Ouais. Il sent que c'était une aventure un peu hors du commun. Ouais.
Alors on l'a dit dans cette émission, être parent d'un enfant autiste en France aujourd'hui, c'est un combat. Mmh. Alors j'ai pas envie de vous laisser repartir sans qu'on ait abordé cette question, même si on est un peu au-delà du thème général de l'émission Le Temps d'un Bivouac. Qui devrait changer aujourd'hui? Pourquoi la situation des jeunes autistes et de leurs familles n'est pas suffisamment bien prise en compte? Et qu'est-ce qui, voilà, s'il y a un message à faire passer, parce que c'est aussi ça l'objet de votre livre, j'imagine.
Oui, de sensibiliser, de faire tomber un peu les préjugés, les clichés qu'on associe à l'autisme. C'est-à-dire que on a l'impression, quand on vous dit que votre enfant est autiste en France, que c'est fini, on peut faire une croix sur la suite. Ce qui est abominable, que rien n'est possible, qu'il n'aura pas sa place plus tard. Voilà, et très rapidement, ce qu'on propose à un enfant autiste, c'est de le mettre en hôpital de jour ou dans une structure à part de la vie de la cité. Donc, ces enfants-là, ils apprennent beaucoup par mimétisme. Et si on les met à l'écart, je vois pas dans quelle manière est-ce qu'ils pourraient progresser et avoir un jour une chance de pouvoir avoir un avenir.
Donc, un meilleur accompagnement pour faciliter la scolarisation. Évidemment, les financements qui vont avec une prise en charge de ces enfants
les
particuliers.
Les thérapies adaptées, parce que aujourd'hui, on n'a pas. La Haute Autorité de Santé recommande les thérapies comportementales et cognitives pour la prise en charge de l'autisme. Elles ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Donc forcément.
Vous avez justement, vous êtes passé à ce type de thérapie et vous avez pu en juger les progrès avec Paul. Ça lui a fait beaucoup de bien.
Alors après, il n'y a pas de méthode miracle. Hein. Moi, je ne vends pas de recette miracle. Il se trouve que je suis pragmatique et que mon fils, ça lui a fait faire un bond en avant extraordinaire. Après, c'est un vrai travail d'équipe parce qu'il a une auxiliaire de vie scolaire qui est formidable et qui l'accompagne à l'école dans tous ses progrès. Il est tombé sur des enseignants aussi qui ont été volontaires pour l'accueillir. Il a des copains de classe qui sont très investis dans ses progrès. Donc tout ça, ça l'a fait énormément avancer.
Merci à vous, Domiti Coé. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Fayard, Paul en Mongolie. Vous saluerez Paul pour nous?
Oui, avec plaisir.
Un prochain voyage est prévu avec Paul un jour?
J'espère, ce serait bien, avec ses frères.
On vous le souhaite. Et dans un instant, nous partons pour un savoureux voyage au Brésil avec deux explorateurs des cuisines du monde, Marine Mandrila et Louis Martin.
Thank you. cas pour un soin. Y'en de l'autre, nous, soin la vie, nous, nous choisis, nous, sorti de là, pour aller en côté Eti, Eti nous paie, tout près chez nous, nous aimer nous.
C'était Manier de David Walter sur France Inter dans le temps d'un bivouac et nous partons à présent au Brésil pour un savoureux voyage avec deux passionnés de cuisine, Marine Mandrila et Louis Martin. Ensemble, ils ont effectué un tour du monde avec l'idée d'utiliser la cuisine comme moyen d'entrer en contact avec les habitants des pays qu'ils traversaient. Ils racontent leur périple et leur découverte culinaire dans un livre intitulé « Very Food Trip » aux éditions de La Martinière.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Bonjour Marine Mandrila et Louis Martin.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est dans les cuisines brésiliennes que vous nous emmenez. Quelles ont été à vous vos premières impressions dans ce pays ?
Alors le Brésil, déjà, c'est un pays gigantesque qui fait plus de 16 fois la France. Et c'est aussi un pays complexe qui est à la fois hyper chaleureux, mais aussi très dense, très intense et parfois assez dur. C'est un pays qui n'est pas toujours très sûr, où il faut être sur ses gardes. Mais bon, si on fait attention, tout se passe bien. Mm-hmm. Et nous, on a décidé de commencer notre découverte du Brésil par l'Amazonie, qu'on a traversée en bateau à partir du sud du Pérou, de Puerto Maldonado jusqu'à Manaus, en plein cœur de la forêt amazonienne. On dormait sur des hamacs sur le pont supérieur du bateau. Et la traversée devait durer 2 jours, mais en fait, on s'est enlisé dans le Rio Madeira, qui est l'un des affluents de l'Amazone. Donc le trajet a duré 4 jours.
Ah oui.
Et ça fait partie de nos plus beaux souvenirs de tout le tour du monde. 4 jours où vraiment on a vécu au rythme du fleuve, où on a observé les orpailleurs le long des côtes et où on a vraiment découvert la culture brésilienne, à chanter, à danser, à discuter.
Ah oui, la vraie aventure.
Vraie aventure. Et il y a un proverbe qu'on aime bien qui dit « Pour bien comprendre un pays, il faut le boire, le manger et l'entendre chanter. » Et c'est encore plus vrai au Brésil.
Alors justement, qu'est-ce qu'on y mange au Brésil ?
Alors au Brésil, on mange une cuisine qui est très très métissée à l'image de sa population. On s'est rendu compte que le Brésil, c'est un pays qui s'est construit en accueillant des populations des quatre coins du monde. Et on retrouve toutes ces influences dans la cuisine brésilienne, avec des influences très portugaises au nord, un peu plus africaines dans la région de Bahia, où on parle de cuisine afro-brésilienne même. On trouve même des influences libanaises, japonaises du côté de Sao Paulo, et encore italiennes, slaves, et même arabes. Donc il y a plein de choses très différentes à découvrir au Brésil. Par contre, il y a un dénominateur commun qu'on retrouve dans toutes les cuisines brésiliennes, c'est le riz, le haricot et la viande, qui sont à la base de l'alimentation, qui sont à la fois très nourrissants et très équilibrés, et qu'on retrouve dans toutes les assiettes, y compris dans le plat national, qui est la feijoada, qu'on mange tous les samedis midi en famille, et notamment chez Viviane, chez qui on a été, qui était originaire de Bahia.
Le week-end, je fais toujours un petit quelque chose pour les amis. J'adore recevoir.
Tu cuisines que des plats de Bahia ?
Non, toutes sortes de plats. Je cuisine pas en suivant une recette. Je connais pas les quantités précises. Je le fais à l'instant. Mais je pourrais essayer de vous mettre la recette par écrit, avec les quantités. Des quantités approximatives.
Et donc ce jour-là, chez Viviane, on a eu l'occasion de déguster une variante un peu moins connue de la feijoada, qui est la feijoa tropeiro. C'est un plat que mangeaient les explorateurs autrefois quand ils ont ouvert les routes vers l'intérieur du Brésil, parce que ce plat avait la particularité d'être facilement transportable et de se conserver plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Et vous avez donc réussi à retrouver les quantités. Vous nous avez rapporté la recette de ce plat des explorateurs, la feijoa tropeiro.
Alors, pour 8 personnes, on prend 1 kg de haricots rouges, 500 g de saucisses de Calabre, 500 g de saucisses de porc, 150 g de bacon, 500 g de farine de maïs, 3 verres de farine de manioc, 6 œufs, 2 oignons, une tête d'ail, un petit piment, 10 feuilles de chou vert, du persil et de l'huile d'olive. On commence par faire cuire les haricots dans un demi-litre d'eau pendant à peu près 30 minutes. On conserve bien le bouillon de la cuisson. Ensuite, on coupe finement les saucisses en tranches et le bacon en petits morceaux, comme pour former des petits lardons. On émince l'ail et l'oignon et on les fait revenir à la casserole avec un peu d'huile d'olive. On coupe les feuilles de chou en fines lamelles, puis on les coupe ensuite verticalement pour en faire comme des petits carrés. On fait cuire ensuite les œufs 10 minutes dans de l'eau bouillante. On fait revenir les saucisses et le bacon dans une poêle pour qu'ils soient bien dorés en retirant bien l'excès de graisse. On ajoute l'ail, l'oignon, le piment rouge après l'avoir haché. Ensuite, on ajoute les haricots, les feuilles de chou et le persil. On mélange bien le tout. On ajoute la farine de maïs tout en continuant à mélanger. Et à la fin, on ajoute la farine de manioc et l'eau de cuisson des haricots petit à petit en mélangeant bien. À la fin, on coupe les œufs durs en petits morceaux et on les dispose sur la préparation dans un grand plat et on se régale.
Et alors, on peut retrouver évidemment cette recette sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac qui, je le rappelle, est accessible même si on n'a pas de compte Facebook. Est-ce que vous avez eu du mal à partager un repas avec des Brésiliens ou est-ce que vous vous êtes senti bien accueilli là-bas ?
On a eu un contact très très facile avec les Brésiliens. Il faut dire qu'on est dans un pays latin qui est culturellement très proche de nous. Aussi, c'est un pays qui est très catholique. Et donc, la culture de partager son repas fait partie vraiment intégrante des valeurs brésiliennes. Puis, c'est aussi un pays qui est très très ouvert sur le monde. Donc, il y a une vraie culture d'accueil. Et on a très très vite parlé avec beaucoup de personnes. C'était aussi la préparation de la Coupe du Monde. Donc, en tant que Français, ils nous posaient beaucoup de questions sur l'équipe nationale de foot française. On a vite trouvé un sujet de prédilection qu'on partageait autour d'une caipirinha, qui est l'alcool national au Brésil et qui a cette capacité de délier les langues et de voilà de créer des moments très très conviviaux.
Je veux bien vous croire. Merci Marine Mandrila et Louis Martin.
Merci beaucoup.
Le Temps d'un Bivouac lève le camp. Pour podcaster cette émission et les épisodes précédents, rendez-vous sur l'appli France Inter. Un grand merci à vous, amis auditrices et auditeurs, pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Très belle fin d'après-midi à vous et à samedi prochain pour de nouvelles aventures.